Cerise sur l'info, le journal
avec MCM.
Et on retrouve Tamara Sentis pour un journal complet d'actu locale. En voici les titres. Bonjour Tamara.
Bonjour Damien et bonjour à tous. Après avoir développé en début de semaine la problématique des assurances habitation en cas de cyclone, nous évoquerons aujourd'hui la situation de ceux qui n'ont pas d'habitation, les sans-abri. En cas de cyclone, le père Christophe assure qu'ils seront accueillis dans la cathédrale de Papeete, vous l'entendrez. Dans cette édition, il sera également question des projets de modernisation du port autonome. Et puis nous reviendrons aussi sur le projet touristique Éco-Parc de la vallée de la Papeno. Visiblement, il fait l'objet de désaccords au sein même du gouvernement.
On démarre avec cette question posée par Radio 1. Que va-t-il advenir des sans-abri en cas de cyclone ?
Après l'annonce de Météo France et du Haut Commissariat du fort risque cyclonique, nous nous sommes en effet interrogés sur la prise en charge des sans-abri de Papeete en cas d'alerte. Les travailleurs sociaux qui s'occupent des personnes en situation d'errance expliquent qu'en cas de cyclone, les SDF se réfugient généralement d'eux-mêmes vers les bâtiments les plus solides, comme aux abords du centre Vaïma par exemple. Le père Christophe, qui s'occupe tous les jours de sans-abri, explique qu'il mettra la cathédrale à la disposition comme lieu d'hébergement pour la nuit, une mesure qu'il avait déjà prise lors du passage d'Oli en 2011.
Nous, on a signalé à la mairie pour l'occasion de leur réunion que, comme la dernière fois, on mettait à disposition la cathédrale comme lieu d'hébergement pour la nuit et en cas de cyclone. Voilà.
Alors, père Christophe, vous qui êtes très près des SDF, alors est-ce que c'est le seul endroit où ils peuvent se réfugier ici dans la ville de Papeete ?
C'est pas la dernière fois, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait rien de prévu, donc c'est comme ça qu'on avait décidé d'ouvrir la cathédrale comme lieu d'accueil. Même si le bâtiment est vieux, la toiture et une charpente métallique est bien solide.
Et de son côté, René Temeharo, le troisième adjoint au maire de Papeete en charge de la protection civile, affirme que les écoles et les salles omnisports seront mises à la disposition de la population et des sans-abri en cas de cyclone.
En fait, on n'a pas ciblé spécialement dans un public en particulier, mais l'ensemble des concitoyens dans la ville de Papeete concernés par justement donc les évacuations, tels que ceux qui sont proches des rivières, de la mer, les gens comme les SDF qui n'auront pas d'abri, effectivement, nous préconisons des lieux de rassemblement tels que les écoles, les salons omnisports. D'ailleurs, nous sommes en relation avec les églises aussi, qui jouent aussi un rôle déterminant dans l'accueil des personnes qui seraient dans le besoin à ce moment-là pendant ces événements. Tout est prêt au niveau donc du plan d'action que nous avons élaboré avec l'État. Et je pense que ce côté-là, donc non SDF n'auront pas à craindre à ce moment-là. Il y aura effectivement des lieux d'accueil qui seront donc mis en place à ce moment-là.
Ces interviews ont été réalisées par Vaïté Ourari et Pambrin.
Les responsables du port autonome de Papeete étudient des possibilités de modernisation.
À l'initiative du cluster maritime, les acteurs du port autonome de Papeete se sont réunis ces deux derniers jours pour mettre en place une stratégie de modernisation. L'enjeu de ces rencontres était de trouver des solutions pour pallier les manques freinant les évolutions nécessaires. Il s'agit notamment des infrastructures insuffisantes et inadéquates ou encore du manque de mutualisation des moyens et de mise en commun des données. Toutes ces problématiques ont fait l'objet de plans d'action qui, selon le président du cluster maritime Gérard Sioux, pourraient permettre au port d'être plus rentable et efficace. Il est au micro de Valentine Bluet.
La modernisation des systèmes d'information, elle doit être mise en place avec des sujets, avec des pilotes et également le cahier des charges qui doit être mis en place. Ce système d'information permettrait à tous les usagers du port d'avoir, je dirais, une intégration des systèmes d'information et de permettre une économie énorme en termes d'espace portuaire parce que les flux de marchandises sera beaucoup plus rapide. Le traitement des dossiers entre tous les acteurs, que ce soit l'importateur, la compagnie maritime, le transitaire, le port autonome, les services phytosanitaires, tout ça serait intégré en une seule opération et permettrait vraiment, un gain de productivité pour tous les acteurs du port.
Et le ministre de l'économie bleue, Tevaro Fritsch, a salué l'initiative du cluster, mais en y apportant un petit bémol, il a tenu à rappeler que ces modifications avaient un coût pour le pays qu'il ne fallait pas négliger.
Comment dire, la nécessité d'une approche globale, parce que ce sont des infrastructures qui coûtent énormément cher, sur lesquelles à la fois le pays, l'État, voire l'Union européenne seront sollicités, et avec des choix assez structurants sur les 10, 15, voire 20 ans qui viennent. Donc, J'ai salué cette initiative du cluster en l'invitant d'ailleurs à concrétiser plus souvent ce genre de table ronde. En tout cas, nous, au gouvernement, on est favorable à ce que sur des grandes problématiques comme celle-là, on puisse se réunir avec le cluster pour pouvoir évoquer ensemble les stratégies. Ensuite, bien entendu, chacun revient dans son rôle. L'Assemblée et le gouvernement prennent les décisions en matière de réglementation, en matière législative. Mais il me semble que cette concertation préalable avec l'ensemble des acteurs est un élément essentiel et est une autre façon aussi de faire avancer les sujets du pays. En tout cas, on y tient.
On revient aussi sur ce fait divers dans ce journal. Un patient de la clinique Paufeil a été sévèrement agressé, c'était mercredi soir.
Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé inanimé mercredi soir vers 21h devant la clinique Paufeil où il était hospitalisé pour des problèmes d'estomac. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait fait violemment agresser alors qu'il prenait un peu l'air dehors. Lorsqu'il a été découvert, l'homme présentait une importante blessure à la tête. Il a été placé dans un coma artificiel. Son pronostic vital est engagé. L'information a été révélée par nos confrères de Tahiti Info.
Le ministre de la Culture a taclé le projet Écoparc devant les élus de l'Assemblée.
Le gouvernement a visiblement des divergences de point de vue sur le projet touristique Écoparc pour la vallée de la Papeno. Alors que le ministre du Tourisme, Jean-Christophe Bouissou, soutient ouvertement ce projet, le ministre de l'Environnement et de la Culture, Eremoana Mahamatouaya Hutapu, a émis plusieurs réserves jeudi en séance à l'Assemblée. C'est l'élu UPLD et Tavana de Hitia, Jacques Drolet, qui l'a interpellé au sujet de projet de complexe touristique de la vallée de la Papeno.
Monsieur le ministre, que pensez-vous de ce projet qui doit être mis en place à Papeno? Car l'hôtel qui doit avoir le jour là-bas, eh bien, doit être construit sur le site que vous évoquiez tout à l'heure où se trouve ce tiki géant.
Et en réponse, le ministre de la Culture et de l'Environnement a avoué qu'il avait été surpris par ce projet et qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Écoutez.
S'agissant de Papeno, j'ai été quelque peu surpris bien par ce projet qui nous a été présenté lors de notre réunion. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec de tels projets qui viseraient à détruire les marais en place sur ces parcelles de terre. Il se trouve que l'investisseur en question a déjà participé à la destruction de certains marais à Papeno. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne pouvais pas ne pas entendre le sentiment et la voix du conseil municipal de Papeno. Il ne s'agit pas d'empêcher ce projet pour l'empêcher, mais simplement de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il faut respecter les sites culturels et également la nature luxuriante de ce lieu. J'ai prévenu le ministre en charge de ce secteur que si ce projet ne prenait pas en considération les avertissements que j'ai formulés, eh bien, je ne serais pas favorable à sa mise en place.
Et on termine ce journal avec du sport et un mot sur nos Tikitoa.
Le classement mondial des meilleures équipes de beach soccer a été mis à jour hier et Tahiti arrive à la 5e place du classement mondial des nations de beach soccer. Le classement est dominé par la Russie devant le Portugal, le Brésil et l'Italie. Le site Beach Soccer Worldwide explique que ce classement prend en compte les performances des équipes sur les 4 dernières années et Tahiti, vous l'aurez compris, figure dans le top 5.
On peut mieux faire.
7h38, c'est la fin du journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est à vous l'antenne. Place à vos messages laissés sur le répondeur.